Ce qui est assez étonnant, c'est qu'au départ, les Américains prônaient le multilatéral avec l'OMC. C'est quand même très largement des règles américaines, notamment pour tout ce qui est propriété intellectuelle. Et puis après, quand ça commençait à moins les intéresser, et surtout qu'ils ont voulu augmenter finalement la pression sur ces pays, ils ont négocié dans le bilatéral. Ils ont négocié des accords bilatéraux avec le Maroc, avec Singapour. Ils ont négocié sur le bilatéral avec la Corée du Sud aussi. Hein. C'est un traité qui a été assez mal vécu par les Sud-Coréens. Et puis, dans un temps ultérieur, on en a parlé tout à l'heure, le fameux TPP, hein, le traité transpacifique, qui devait faire des espèces de parts de pizza, c'est-à-dire des groupes entiers de pays qui suivaient des règles communes. Et là encore, les Américains ont quand même très largement imposé leurs idées. Donc là, de vouloir revenir au bilatéralisme, ça surprend quand même énormément, parce qu'aujourd'hui, le temps n'est plus vraiment à ces accords bilatéraux. Et comme vous l'avez dit, effectivement, les Chinois, qui n'étaient pas très favorables au multilatéralisme, et traditionnellement, avec leurs voisins asiatiques, aiment bien traiter bilatéralement, parce que c'est eux qui sont les plus forts, eh bien aujourd'hui, c'est facile pour eux d'avoir ce discours. Finalement, c'est nous qui reprenons le flambeau du multilatéralisme. Multilatéralisme, le flambeau du libre-échange, ce que Xi Jinping avait déjà fait à Davos au début de l'année 2017.
Donc un paradoxe, hein, d'un côté les Chinois qui jouent aujourd'hui le multilatéralisme, les Américains...
Le terme « jouer » je pense intéressant aussi.
Hein. Oui, et en tout cas les pays de la région dans tout ça, c'est vrai qu'ils ils sont d'accord peut-être sans doute sur un point, c'est que demain la puissance, ce ne sera pas les États-Unis, ce sera la Chine.
Tous les sondages le montrent, hein, que pour eux, dans 10 ans, dans 20 ans et même déjà aujourd'hui, c'est la Chine qui est la puissance d'avenir. Quand même, ce qu'il faut se rappeler, c'est que depuis les années 60, avec le Japon, puis ensuite la Corée du Sud, la Chine, etc., c'est que, en fait, tous ces pays ont connu un dynamisme extraordinaire, très largement grâce au marché américain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce dynamisme dépend beaucoup plus soit du marché chinois, soit finalement de leur marché. Et la grande question aussi, c'est d'avoir maintenant des croissances plus auto-centrées, c'est-à-dire d'avoir moins besoin d'exporter ailleurs, puisqu'ils auront des classes moyennes plus développées qui seront des consommateurs. Donc l'arme que les États-Unis avaient auparavant, c'est-à-dire l'accès au marché américain, est quand même beaucoup moins important pour ces pays asiatiques qui sont juste à côté de la Chine et qui ont besoin de la Chine pour leur développement économique.
Alors tout le monde sait donc qu'il est impossible d'empêcher la montée en puissance de la Chine, de Donald Trump sans doute en premier. Il le sait, et il sait que c'est difficile de définir une politique claire vis-à-vis de la Chine. Et c'est un paradoxe finalement.
Tout à fait. Depuis assez longtemps, on tourne autour de l'idée qu'il y aurait des systèmes de forme de containment, ou d'endiguement, pour prendre le terme français, de la Chine, comme il y avait un endiguement de l'Union soviétique. Et donc, il y aurait une espèce de grande alliance. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu ça, puisqu'il y a tout un discours de faire revivre ce qu'on appelle le Quad, c'est-à-dire les États-Unis avec les Indiens, les Australiens et les Japonais, c'est-à-dire en gros plutôt les pays démocratiques. Mais on n'imagine pas un espèce de gros front puissant qui puisse faire face à la Chine. Et surtout, les pays proches de la Chine, hein, que ce soit les pays de l'ASEAN dont on a parlé tout à l'heure, même la Corée du Sud, sont des pays qui ont besoin absolument de la Chine. Et donc les questions militaires pour eux sont pas si importantes. Il y a le diplomatique, il y a l'économique et il y a l'institutionnel.
Alors Donald Trump qui a donc parlé à la tribune hier, il a parlé de cette volonté d'instaurer le bilatéral. Est-ce que cette participation du président américain à ce sommet Asie-Pacifique lui a fait malgré tout gagner quelques points ou c'est vraiment zéro point d'après vous?
Alors, le problème, c'est où est-ce qu'il veut gagner des points? Est-ce qu'il veut gagner des points en Asie ou est-ce qu'il veut gagner des points aux États-Unis? S'il veut gagner des points aux États-Unis, il a roulé des épaules, c'est-à-dire que quand il était dans le nord du continent, il a commencé à dire « si vous, les Nord-Coréens, vous venez me chercher, vous allez voir ce que c'est, les Américains, ils vont vous répondre ». Et quand il était au sud, il a dit « maintenant, venez sur le ring de boxe, on va renégocier absolument tous les accords commerciaux et même d'ailleurs le fondement même du commerce ». Donc ça peut plaire aux Américains quand on roule des épaules. C'est quelque chose qu'ils aiment assez souvent. En tout cas, une partie de la population américaine apprécie ça. Mais si vous voulez, en Asie, on ne voit pas où est-ce qu'il veut en venir. Où est-ce
qu'il veut en venir ? Parce qu'il roule des épaules, mais c'est vrai qu'on se souvient des mots très durs qu'il avait eus vis-à-vis de la Chine il y a quelques mois. Et maintenant, il fait les yeux doux à Pékin, Donald Trump.
Il donne surtout l'impression, et dans les pays asiatiques, que finalement, il suffit de lui faire un accueil d'empereur, ou en tout cas de roi, de le flatter, pour que finalement les choses se passent bien, qu'il montre qu'il est tout à fait heureux, qu'il est tout à fait content. Et donc voilà, on a même, le premier ministre japonais qui l'amène manger des hamburgers, c'était quand même quelque chose que les Japonais n'ont pas forcément énormément apprécié.
Alors on le disait au début du journal tout à l'heure, les 11 ministres des Finances des pays membres du TPP tentent de faire revivre l'accord. Ils annoncent avoir trouvé un nouveau cadre d'échange sans les États-Unis. Est-ce qu'on peut donc se passer de Washington comme chef d'orchestre dans tout cela ?
C'est la grande question qui traîne depuis un moment, c'est-à-dire est-ce qu'on est rentré depuis une dizaine d'années, la grande question, est-ce qu'on est dans un monde post-américain? Donc là, ça pourrait en être une preuve. Alors, j'ai pas tous les détails de ces négociations, c'est le moins qu'on puisse dire. Visiblement, le Canada traîne quand même énormément les pieds, se pose des questions. Vous avez un certain nombre de pays comme le Vietnam qui ont été assez agacés par, évidemment, les positions en termes de normes, notamment sur le travail des enfants. Donc je suis pas sûr que ça va être un grand accord, que ça va être finalement quelque chose qui va marquer l'histoire, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement on cherche des solutions sans les Américains. Et finalement, par exemple, l'accord entre l'UE et le Canada, c'est une façon aussi, d'une certaine façon, de passer outre les États-Unis.
Un dernier mot, Pierre Grosser, on a parlé donc ce qu'a dit Donald Trump, cette volonté de protectionnisme. Est-ce qu'on peut lui reconnaître tout de même d'avoir admis que son pays désormais ne fait plus la pluie et le beau temps dans la région, parce qu'il a été relativement modéré sur cet aspect des choses?
Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le discours de leadership est moins fort qu'à l'époque d'Obama, où c'était normal de restaurer le leadership. On a l'impression que là, son objectif, c'est que les États-Unis soient le premier parmi les autres, c'est-à-dire le plus fort, avec l'économie la plus dynamique, etc., etc. Mais en disant, ben voilà, chacun va faire ce qu'il veut en termes civilisationnel, hein, finalement, mais nous, on va être le plus fort parmi les autres. Mais donc, sans vouloir organiser le monde, alors peut-être que c'est une bonne chose que les États-Unis n'organisent plus le monde, mais la manière dont ils le font, à mon avis, c'est plutôt contre-productif.